Et c'est maintenant le moment de retrouver la directrice des programmes chez Vélo-Québec, Magali Bebron. Bonjour Magali.
Bonjour David.
Bien, content de te retrouver en studio. Cette semaine, comme j'ai dit un peu plus tôt, tu voulais aborder avec nos auditeurs le sujet de la condition physique chez les enfants, mais aussi celui du déplacement actif.
Exactement. Donc, la semaine dernière, dans un article intitulé « Les enfants québécois à bout de souffle », la presse a dévoilé une étude tout à fait alarmante sur la condition physique des enfants et des adolescents. Mm-hmm. On y apprend que la forme physique de nos jeunes s'est énormément détériorée depuis les années 80. Pour en arriver à cette conclusion, les auteurs ont reproduit la méthodologie d'une étude qui date de 1982, qui soumettait les enfants au test de la navette, qu'on appelle aussi le test bip-bip. Pour résumer, on demande aux jeunes de courir 20 mètres, un rythme qui augmente à toutes les minutes, et ça donne ce qu'on appelle le VO2 max, qui vient mesurer la capacité cardio-respiratoire des enfants. Conclusion de cette étude, qui en plus date d'avant la pandémie, alors qu'on sait que la pandémie a encore empiré les choses depuis, mais en moyenne, en 2017, les jeunes de 6 à 17 ans soumis au test ont complété 30% de moins de paliers qu'il y a 35 ans.
Ce qui est quand même énorme.
C'est une grosse, grosse baisse. Et désormais, à l'âge de 17 ans, 6 garçons et 7 filles sur 10 sont sous ce qu'on appelle le seuil de protection. Alors, ce n'est pas mon expertise, mais ce qu'on nous dit dans l'article, c'est que leur capacité cardio-respiratoire les met à risque de développer des maladies sérieuses. Il y a une citation que j'ai trouvée vraiment frappante dans l'article du docteur Mario Leon qui dit que si on continue comme ça, ben c'est bien simple, nos jeunes, à 35 ans, auront bientôt les mêmes problèmes de santé que nos personnes de 70 ans. Donc, on se magasine une grosse crise de santé publique. Là, notre système n'a pas fini de mal aller. Bien entendu, la cause de cette détérioration, on n'a pas besoin de la chercher bien loin, c'est la sédentarité aggravée par le temps d'écran excessif et globalement le manque d'activité physique. Donc, au rang des solutions, les experts interrogés par la presse avancent l'idée d'intégrer davantage d'heures d'activité physique dans les programmes scolaires. Après tout, si on recommande 60 minutes d'activité physique pour ces groupes d'âge-là, est-ce que l'école ne devrait pas répondre à l'essentiel de cet objectif? En plus, la recherche a montré que les enfants qui sont plus actifs sont aussi plus alertes et mieux disposés pour leurs apprentissages, donc ils réussissent mieux. Mais rapidement, on se heurte à la réalité des milieux scolaires. Non seulement on manque déjà d'heures pour atteindre tous nos objectifs pédagogiques en français, en maths et tout le reste, mais en plus, on manque aussi cruellement de plateaux sportifs et d'enseignants. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'on sera capable d'opérer ce virage-là. Le lendemain de cet article, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Isabelle Charest, a réagi à ce qui était révélé. Et bien que Mme Charest soit une ancienne médaillée olympique, j'ai beaucoup aimé sa réaction parce qu'elle a parlé de sport, bien entendu, de l'importance d'inculquer une culture du sport et du plaisir. Mais elle a élargi le débat en rappelant l'importance des saines habitudes de vie et notamment, elle a parlé de transport actif.
Donc, un sujet qui t'est à cœur.
Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le transport actif? Il s'agit bien entendu de tous les déplacements qu'on fait en fournissant nous-mêmes la force motrice. Mmh. Donc, ça inclut la marche, le vélo, mais aussi la trottinette, le patin, voire la planche à roulettes. Or, quand on tente de comparer les données, par exemple, du nombre d'élèves qui se rendent à l'école à la force de leurs deux jambes, et ce n'est pas toujours facile parce que les données ne sont pas recueillies de façon très cohérente, mais ce qu'on constate en gros, c'est que les enfants sont de moins en moins nombreux à marcher ou à pédaler pour se rendre à l'école et de plus en plus nombreux à se faire conduire, soit en auto par leurs parents, soit par un autobus scolaire. Donc, en 71, on estimait que 80% des enfants de 7-8 ans allaient à l'école de façon active. En 2011, fast forward, on est rendu à peine 30% des élèves du primaire qui se déplaçaient à pied et 2% à vélo. On a des croûtes à manger. Ça veut dire que notre proportion s'est inversée. Maintenant, c'est près de 7 enfants sur 10 qui se font conduire. Mm-hmm. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a plein d'enfants qui ne sont pas et ne seront jamais de grands sportifs. Mais ces déplacements quotidiens, ils pourraient jouer un rôle important pour les garder en forme et leur faire faire une bonne partie des 12 000 pas quotidiens qu'on leur recommande d'accumuler.
Puis d'après toi, justement, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on passe de chiffres aussi gros que 80% à 30%? Comment que la tendance s'est renversée?
Mais il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi on est rendu là. On ne peut pas négliger, par exemple, les questions de logistique familiale. Le fait que pour certaines familles, la run de lait le matin, elle se fait en voiture parce que les parents vont au travail en auto. Donc, le plus simple pour eux, c'est de déposer l'enfant au passage et de continuer vers leur destination finale. Mais ce que ça crée comme problème, c'est que les abords des écoles font partie des lieux les plus densément congestionnés autour de l'heure de début et de fin des classes. Parce qu'en plus, les parents souffrent de ce qu'on a appelé dans mon domaine du syndrome de la porte. Ça, c'est l'espèce de maladie mentale qui fait que tu veux absolument déposer ton enfant juste en face de la porte de l'école ou de la cour, quitte à mettre tout le monde en danger. Donc, ça se stationne allègrement en double, ça fait débarquer son enfant au milieu de la circulation, ça fait des U-turns.
Ça pour être devant la porte.
Exactement. Donc, pour avoir côtoyé pas mal de directions d'école dans mon travail, elles vous diront toutes la même affaire, là. Il n'y a pas plus dangereux près d'une école qu'un parent qui vient de déposer son propre enfant. Donc, c'est pas surprenant après ça quand on interroge, nous, les parents, dans le cadre de nos programmes et qu'on leur demande pourquoi ils n'autorisent pas leur enfant à venir à l'école à vélo, puis qu'ils nous répondent qu'ils trouvent ça trop dangereux.
Puis qu'est-ce qu'il y aurait à faire, justement? Y a-t-il des choses, des solutions qu'on pourrait entreprendre pour rendre les environnements un peu moins dangereux?
La première chose bien importante, quand on a à implanter une nouvelle école, il faut s'assurer que notre école, elle est bien située, c'est-à-dire proche de là où vivent les élèves qui vont la fréquenter. Parce que ça a été établi, la distance réaliste qu'un enfant peut marcher avec ses petites jambes, ça va de 860 mètres pour un enfant de 5-6 ans à 1,1 km pour les 11-12 ans.
Okay.
Puis quand on parle de vélo, on passe à presque 1,8 km, mais ça reste relativement proche.
Ouais.
Là. Donc, si on fait une école excentrée parce que le terrain coûte moins cher ou qu'on la fait plus grosse, ce qui fait en sorte qu'on a un bassin de desserte plus grand, on vient de nuire à l'accessibilité à pied et à vélo, puis on ne pourra plus jamais corriger ça. Donc, dans le fond, comme société, pour toutes sortes de raisons, on devrait vraiment privilégier le modèle de l'école de quartier qu'on peut facilement rejoindre à pied. Et malheureusement, avec le système d'école à trois vitesses qui est souvent critiqué avec des écoles privées, des écoles publiques à programme particulier et enfin des écoles publiques bien régulières, on accentue le problème d'accessibilité parce que les parents magasinent des écoles qui sont souvent beaucoup plus éloignées de leur domicile et l'auto devient la seule solution d'y amener les enfants. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, on s'attarde aux aménagements aux abords des écoles. Chez Vélo Québec, on a lancé en 2005 un programme qui s'appelait « Mon école à pied à vélo ». Avec cette initiative, on réalisait des plans de déplacement scolaire, c'est-à-dire qu'on analysait les abords des écoles pour faire des recommandations aux municipalités pour qu'elles réaménagent les rues, les traverses, pour que ce soit plus sécuritaire de se déplacer à pied ou à vélo. Puis en réalité, la vaste majorité de nos recommandations portaient vraiment plus sur la marche que sur le vélo. Ça nous amenait par exemple à proposer des saillies de trottoirs, pour améliorer la visibilité des piétons aux intersections, réduire leur temps de traverse. On recommandait de dégager visuellement les coins de rue. On se penchait sur la question des débarcadères pour essayer de mettre un peu d'ordre dans les arrivées, les départs, tout ça. Donc, ces actions-là sont importantes parce qu'elles sécurisent et elles apaisent les déplacements aussi longtemps que va durer le béton. Mm-hmm. C'est pas mal plus pérenne que de dire qu'on va rajouter un brigadier qui va être là une heure à l'entrée et la sortie des classes. Je ne suis pas en train de critiquer le travail très nécessaire des brigadiers, mais on sait que ce modèle-là a ses limites. Par exemple, les enfants qui vont au service de garde, qui arrivent plus tôt, qui quittent plus tard, ils ne bénéficient pas forcément de la protection de la brigadière ou du brigadier. C'est la même chose pendant les journées pédagogiques, d'ailleurs. Donc, avec nos partenaires, on a réalisé des plans de déplacement scolaire dans des centaines d'écoles, dans toutes les régions du Québec, et certaines de ces recommandations-là sont encore en train de se concrétiser, notamment grâce à un programme de la Ville de Montréal de sécurisation des abords des écoles. Mais après, on doit aussi s'attarder à la culture et à l'éducation des familles pour réhabiliter la marche et le vélo vers l'école.
Mais est-ce que justement, tu aurais des exemples, des idées pour faire ça?
Pour la marche, il y a des initiatives super intéressantes comme le Trottibus qui est coordonné par la Société canadienne du cancer. Le principe, c'est que c'est un circuit avec un horaire préétabli, opéré par des parents bénévoles ou des membres de la communauté qui marchent le long du circuit et ramassent, entre guillemets, les élèves pour les accompagner en marchant jusqu'à l'école. Donc, il suffit parfois de quelques parents de bonne volonté qui assument, une journée par semaine. Mm-hmm. Et les autres jours de la semaine, ce sont d'autres parents qui prennent en charge leurs enfants. C'est gagnant pour tout le monde. Pour le vélo, il faut d'abord commencer par réapprendre aux enfants à pédaler et à pédaler en sécurité. C'est pour ça qu'on a lancé chez Vélo Québec le programme qui s'appelle Cycliste averti. C'est mon petit bébé. Ce programme-là, il est inspiré des meilleurs pays cyclables du monde, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique. Il consiste en une quinzaine d'heures d'apprentissage pour les enfants en cinquième ou sixième année du primaire. Les enfants vont passer 6 heures avec leur enseignant ou enseignante en éducation physique et à la santé pour apprendre à bien maîtriser leur vélo avec toutes sortes de jeux. Puis, ils vont passer un autre 6 heures avec leur enseignante titulaire à aborder toutes les notions théoriques, comprendre les panneaux de circulation, connaître les règles, savoir qui a la priorité à une intersection, pourquoi on doit se méfier des portières, c'est quoi un angle mort. Et ensuite, les enfants sortent sur la route avec une équipe d'instructeurs et ils mettent tout ça en pratique, dans la vraie vie, pendant une sortie de groupe. Et l'étape finale, c'est comme un petit examen de conduire d'une vingtaine de minutes sur la route avec une instructrice ou un instructeur, ce qui te donne un petit bulletin avec le niveau que tu as atteint. Donc l'an dernier, on a touché plus de 4700 élèves qui ont eu ce programme très concret dans 12 régions. Et on compte en rejoindre encore beaucoup plus dans les prochaines années parce que c'est comme ça qu'on redonnera aux jeunes leur autonomie et qu'on arrivera peut-être un jour à inverser la tendance préoccupante qui a fait les manchettes la semaine dernière.
Donc, le déplacement actif qu'on planifie et qu'on éduque aussi peut être une solution à envisager. Magali Bebron, merci beaucoup.
Merci, Navid.